Voilà, donc c'est, l'idée, c'est de, d'aborder quelques éléments sur quelque chose qu'on pourrait nommer une biographie intellectuelle et politique de Gramsci. Donc, voilà, avec cette hypothèse de départ qui est, c'est pas un penseur philosophe qui travaillait dans son bureau, mais un militant et un penseur politique qui s'est retrouvé dans un monde grand et terrible. Hein, c'est une expression que lui-même emploie à diverses reprises et qui l'avait trouvé dans le livre de Rudyard Kipling qui s'appelle Kim, hein, un monde grand et terrible, un monde compliqué. Hein, il écrit, on trouve vraiment à plusieurs reprises dans les lettres qu'il écrit quand il est en prison à sa belle-sœur Tania ou à son épouse Julia. Hein, il mondo è davvero grande e terribile, e specialmente per chi è in carcere, sempre più incomprensibile. Hein, le monde est vraiment grand et terrible, et en particulier pour ceux qui sont en prison, toujours plus incompréhensible. C'est donc en bonne partie hein, pour rendre compréhensible le monde et rendre compréhensible la défaite de la classe ouvrière italienne. Et ce qui s'est passé en Europe après la Première Guerre mondiale, qui va écrire ses cahiers de prison, qui sont 33 cahiers, écrits en fait en relativement peu de temps, parce que s'il est arrêté, en 1926, mais il n'obtient l'autorisation d'écrire qu'à partir de février 1929. Et il doit s'arrêter pour des raisons de santé 2 ans avant sa mort, en juin 1935. Il n'a plus la force physique pour continuer à écrire. Donc ce qu'on a de lui, les 33 cahiers, 4 qui sont des cahiers de traduction et tous les autres, les 29 autres, qui sont des cahiers de réflexion politique sur toute une série de choses qui partent hein, d'une conception socialiste et marxiste et de l'attachement à l'idée de la révolution prolétarienne, mais qui modifie profondément les concepts utilisés dans la tradition marxiste. Voilà. Donc, monde grand et terrible, et compliqué, et difficilement compréhensible, surtout quand on est en prison, ce monde qui commence avec les bouleversements induits par la Première Guerre mondiale, la révolution, évidemment, la révolution bolchevique et soviétique, au moins au début d'octobre 1917, la victoire du fascisme après la marche sur Rome d'octobre 1922. Donc, quelques éléments, hein, dont certains ne sont pas décisifs, mais dont tous contribuent à une personnalité et à des intérêts de Gramsci qui sont spécifiques. Alors, d'abord, c'est un sarde. Voilà. C'est un sarde. Gramsci, c'est pas un nom sarde. C'est un nom albanais. Voilà. Donc, la famille de Gramsci vient d'Albanie. Voilà. Simplement, l'idée que les hommes bougent. Hein, malgré toutes les tentatives pour les empêcher de bouger, ils bougent. Voilà. Et donc, ils changent d'endroit. Ils adoptent de nouvelles façons de penser. Ils gardent une partie des façons de penser qu'ils ont amené avec eux, etc. En tout cas, lui, il naît là-bas, il naît dans une famille de 7 enfants, il est le 4e, hein. Il est né dans un tout petit bled de Sardaigne, il vit ensuite assez rapidement dans un autre petit bled de Sardaigne qui s'appelle Gilarza, donc il naît le 22 janvier 1891. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'il racontait son ami et camarade Palmiro Togliatti, qui a été, comme vous le savez sans doute, un des grands dirigeants du Parti communiste italien après la Seconde Guerre mondiale, dans un premier texte biographique qu'il a écrit sur Gramsci au moment de la mort de celui-ci en 1937, il a écrit pour faire plus joli, quoi. Hein, pour faire plus joli, il a écrit qu'il était fils de paysans pauvres, non, ce n'était pas une famille de paysans pauvres. Son père était funzionario del registro, en fait, il était contrôleur du bureau de l'état civil et s'occupait de la collecte des impôts indirects, donc de la petite bourgeoisie sarde. la petite bourgeoisie sarde. Donc son père avait fait des études supérieures, hein, sa mère, Giuseppina Marchas, était allée à l'école et savait parfaitement lire et écrire l'italien, ce qui vraiment là n'était pas le cas des paysans et des bergers sardes, hein, pas du tout. Il parlait que le sarde. Lui, il parlait sarde et italien. Voilà, hein, il y a beaucoup de textes, en particulier dans les lettres où il explique c'est important. Il écrit à sa sœur, il parle des enfants de sa sœur. Il faut évidemment qu'ils apprennent l'italien, qu'ils sachent bien l'italien, mais laissez-les parler le sarde. Ne leur apprenez pas la moitié d'italien que vous savez vous. Laissez-les, hein, lasciateli succhiare tutto il sardismo che vogliono. Hein. Laissez-les sucer tout le sardisme qu'ils veulent apprendre. Parce que c'est un vrai rapport, tout un truc là-dessus qui est le fait qu'une langue, déjà, c'est une conception du monde, une langue, déjà, c'est un point de départ extrêmement important, et c'est les racines même du sens commun, du bon sens, et donc les racines de la philosophie, hein, à partir duquel il va falloir faire un autre travail. Enfin, voilà. Alors, petite bourgeoisie, mais, et ça c'est un truc... C'est un élément important. Il connaît la misère, voilà. Il connaît la misère de près parce que son père, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de rentrer dans les détails, mais qui ont à voir avec les formes de clientélisme en Sardaigne, etc., est accusé de malversation dans le cadre de son travail. Et il est emprisonné pendant plusieurs années, de 1898 à 1904, donc... Hein, le petit Nino, on l'appelle Nino dans sa famille, et ses camarades après continuent souvent à l'appeler Nino quand ils veulent parler de lui gentiment. Ils veulent souvent parler de lui gentiment. Nino, hein, comment va Nino? Et là, c'est un moment vraiment de pauvreté pour la famille Gramsci, puisque les seules sources de revenus de la famille sont pendant ces 7 ans-là. Le fait que la maman Giuseppina fait des travaux de couture et que on est en Sardaigne à la campagne, donc il y a solidarité familiale et solidarité des proches, mais enfin bon, c'est pas la gloire, hein, c'est pas la gloire. Et par ailleurs, Nino est atteint, donc vous savez sans doute, d'une maladie de croissance, hein, il est bossu. Quand il sera adulte, il mesurera 1m51. Et en fait, on ne diagnostiquera que tardivement, en 1933, alors qu'il est en prison depuis déjà plusieurs années. Et au moment où il va très très mal, donc il réussit à obtenir la visite d'un professeur qui s'y entend et pas seulement du médecin de la prison. Et le professeur, il s'appelle le professeur Arcangeli, il lui diagnostique une tuberculose de la colonne vertébrale qui s'appelle la maladie de Pott, et puis toute une série d'autres maladies. Enfin, voilà. Alors, il faut dire que la prison ne l'a pas arrangé, hein, ce qui fait qu'il est mort, jeune, quoi. Hein. Alors, du coup, ces conditions difficiles financière l'oblige à interrompre ses études quand il a 11 ans, hein, pour travailler. Et donc, il travaille au service du cadastre de Ghiarza avec son frère aîné, Gennaro di Nannaro, hein, qui joue un petit rôle, puisque lui aussi est plus qu'un petit rôle. Ça a été le premier qui l'a introduit au socialisme. On va en parler dans très peu de temps, parce que... socialisme et à l'idée de quelque chose qui a à voir avec un sardisme, hein, sinon un nationalisme sarde, mais la spécificité de la Sardaigne, la spécificité insulaire et la spécificité linguistique. Hein. Donc voilà. Alors, il va quand même, parce que quand le père revient, la situation financière s'arrange un peu et ses parents l'envoient donc au gymnasio dans un village un peu plus gros, un bourg qui qui est à quelques à une vingtaine de kilomètres de Ghilarza, qui s'appelle Santo Lussurgio. Hein, si vous avez l'occasion de lire les lettres, hein, c'est intéressant de lire les lettres, parce que ça permet de penser autrement le rapport à quelqu'un qu'on voit comme un pur cerveau. Quoi. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui a une histoire complexe, une histoire qui a des liens avec les gens, qui a un intérêt pour les gens, etc. Et puis qui aime bien raconter des histoires. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné des gens qui ont fait un petit livre avec, en tirant des lettres, des espèces de fables, hein, des petits récits comme ça. Donc, c'est pas du temps perdu de lire les lettres de prison. Voilà, par exemple, il raconte une histoire qui dit quelque chose sur la Sardaigne. Sur la Sardaigne du tout début du XXe siècle, donc il est en pension à Santo Lussurgio. Il y a les vacances, il veut gagner du temps et pas attendre la diligence, il y a une diligence, et donc il part à pied avec un autre camarade qui va aussi à Ghilarza. Et il remonte, donc c'est la nuit, etc., machin, et puis ils entendent une balle siffler, hein, ils se disent, tiens, c'est un chasseur, hein, qui... Voilà, donc il continue à marcher, tac, une autre balle, mais plus près, une troisième balle, mais plus près, donc il se met... Et donc ils commentent comme ça avec leur cul, hein, c'est une vingtaine d'années après, hein, dans une lettre de décembre 27, et il dit « Era una comitiva di buon temponi che si divertiva a farci paura, hein, ». C'était un groupe de gens là, qui voulaient rigoler là, à nos dépens, et donc il explique comment ils se sont mis dans le caniveau, et que, voilà, ils ont fini par attendre qu'il fasse nuit complètement, qu'on puisse plus les voir, mais que voilà, ils sont rentrés tranquillement quand même. Ils n'ont pas raconté l'histoire à ce moment-là. Voilà. Alors, il va au lycée à Cagliari, hein, donc une des deux grandes villes de Sardaigne, c'est un des seuls endroits où il y a un lycée, donc en 1908. Et là, voilà, son frère Gennaro est déjà là, il vit avec lui. Et Gennaro est secrétaire de la section socialiste de Cagliari. Et donc voilà, et c'est là que commence son intérêt pour les idées socialistes et pour les idées régionalistes sardes. Hein. Voilà. À la fin de ces années de lycée, en 1911, il passe un concours et obtient une bourse pour étudier à Turin. Et là, le passage à Turin est un moment important dans sa biographie intellectuelle. Il va dire rétrospectivement, hein, dans un des cahiers, que en arrivant à Turin, hein, certainement il était un triple ou quadruple provincial. Hein. Un triplice o quadruplice provinciale, come certo era un giovane sardo del principio del secolo, hein, quaderno 15, cahier 15, paragraphe 19. Hein, mais en même temps, un bouleversement et une ouverture, parce que l'université de Turin, c'est une grande université italienne, il y a des grands professeurs, il y a un lien direct avec la culture française, donc voilà. Donc la culture française, un point qu'il apprend là à l'université, hein, il va toujours lire le français, il lit très bien le français. Par la suite, il apprendra le russe et l'allemand. Une des choses qu'il fera en prison, c'est de traduire des textes d'allemand et de russe, des textes littéraires russes, hein, une anthologie de la littérature russe. Et des textes de Marx, mais pas seulement. Il traduira aussi en prison un manuel de linguistique, parce qu'un des points, qui l'intéresse le plus, voilà, c'est ce que on nomme à l'université de Turin la glottologia, qui est en gros la linguistique historique, hein, l'évolution de la langue. Et il devrait faire, il avait l'intention de faire une thèse avec un linguiste, hein, ce qu'il appelle mon bon professeur, il mio buon professore Bartoli, hein, qui voyait Gramsci comme un étudiant brillant qui allait être, la citation d'une lettre de Gramsci, l'arcangelo destinato a profligare definitivamente i neogrammatici. Hein, donc, la ligne de Bartoli, la glottologie turinoise, c'était une ligne historique, hein, de développement historique des langues, des rapports entre les langues, des hégémonies, hein, notez bien le mot, des hégémonies des deux langues par rapport à l'autre, de la façon dont les langues se développent comme ça, historiquement, qui sont des processus historiques, contre ce qu'il appelle là les néo-grammairiens. Hein, donc l'archange, la citation signifie l'archange qui allait détruire, hein, qui allait l'emporter définitivement sur les néo-grammairiens. Et ces néo-grammairiens sont des gens qui s'intéressent à la langue comme un phénomène indépendant du développement historique, mais comme un phénomène lié aux organes phonatoires, des choses comme ça, des analyses internes beaucoup plus formalistes et beaucoup moins historicistes. Voilà. Il y a une lettre qui décrit son état d'esprit et qui est très, très jolie. Une espèce de... Hein, qui dit un peu quel type d'étudiant c'était. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme ça ou si vous allez être comme ça comme étudiant, mais c'est dangereux, comme vous allez voir. Alors, il évoque donc lo stato di ossessione in cui mi trovavo negli anni dell'università quando mi concentravo su una questione ed essa mi assorbiva in tal modo che non badavo più a nulla e correvo talvolta il pericolo di andare sotto il tramvai. Donc l'état d'obsession dans lequel je me trouvais pendant les années d'université quand je me concentrais sur une question et qu'elle m'absorbait de telle façon que je ne faisais plus attention à rien et que je risquais parfois de me retrouver sous le tram. Hein, voilà, méfiez-vous quand même. Sur l'état d'obsession, tu peux faire naître une question intellectuelle. En tout cas, on voit bien le... Hein, ouais. Alors, il va, lo studente che non fu laureato. Hein, il a jamais passé sa laurea, mais sa... Voilà, qui en fait sa thèse, quoi, hein, la thèse de l'époque. Ouais. Il n'a jamais fait la thèse sur la langue sarde. Voilà, parce que... Alors, il y a des liens avec le fait que sa santé a toujours été défaillante. La situation financière est très difficile, encore là, parce que la bourse est bien faible et les parents ne peuvent pas beaucoup l'aider, etc. Mais surtout, et c'est ça qui va expliquer le fait qu'à un moment donné, bon, il va arrêter de se dire... Je vais être l'archange, comme veut mon bon professeur Bartoli, qui va mettre en déroute définitivement les néo-grammairiens, et qu'il se concentre sur le journalisme politique. Non, il se concentre sur le journalisme politique. Et là, il est avec un groupe d'autres étudiants, hein, dont tous ces noms-là sont des noms importants du communisme italien ou de l'hétérodoxie communiste italienne, puisqu'il y a Palmiro Togliatti qui va devenir après la guerre, qui va être un des dirigeants de l'international communiste, et puis après la guerre, quand il va pouvoir revenir en Italie à partir de 1943, le principal dirigeant du parti communiste italien, hein, celui qui va faire, pour ceux d'entre vous qui ont fait de l'histoire politique, celui qui va faire le tournant vers l'euro-communisme, quoi, hein, mais qui a une formation inutile de dire qu'il a une formation sérieuse, puisqu'il a survécu aux années du stalinisme. Donc c'est déjà la preuve qu'il était bon, quoi, hein, parce que, pour y arriver, en étant à Moscou, hein, et en étant au secrétariat de l'international communiste. Donc, un autre dirigeant communiste.
Et en étant considéré comme moins stalinien que beaucoup d'autres.
Et voilà. Et en plus, en étant. Voilà, il est vraiment. Il s'est bien débrouillé, quoi. Un autre dirigeant important. Donc là, c'est des gamins. Hein, enfin, des gamins. Ils ont votre âge, quoi. Hein, voilà, ils se connaissent là, à l'université, quoi. Voilà. Ils sont socialistes. Hein, et on va essayer de voir un peu plus ce que ça veut dire pour eux à ce moment-là. Umberto Terracini, un autre dirigeant qui va rester lui aussi, un des grands dirigeants, un dirigeant important du Parti communiste italien. Angelo Tasca, qui lui a été tout à fait à l'origine, dans les gens qui ont été à l'origine, hein, dans ce groupe qui va être à l'origine, à la fois de l'expérience turinoise, hein, dont je vais dire le nom tout de suite, même si on en parlera dans quelques instants, qui est la revue de ces quatre personnes à Turin à partir de 1919, et qui s'appelle L'Ordine Nuovo, hein. Alors, comme vous savez peut-être aussi, depuis, ça a été repris par des gens moins... Hein, voilà. Mais à l'époque, ça voulait dire voilà, quelque chose, une transformation du monde sur la base de l'émancipation de la classe ouvrière et de l'émancipation du travail, hein, dans la lignée de la déclaration de Marx dans les statuts de l'Association internationale du travail, l'émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors, Angelo Tasca a été dans l'Ordine Nuovo, il a été dans le groupe de formation du Parti communiste d'Italie en 1921. Et puis, voilà, il a pas accepté le tournant, le grand tournant des années 28-30. Et il est devenu donc. Un intellectuel lié plutôt au Parti Socialiste Français, etc. Parce qu'en plus, évidemment, il ne pouvait plus être en Italie avec le fascisme, etc. Et la ministre de Mitterrand, Tasca, c'est sa fille. Il a eu une autre fille, il a deux filles géniales. Vous voyez, sa fille là, la ministre, et l'autre qui est une traductrice de l'italien, qui est absolument. Enfin, maintenant elle est morte, mais bon. C'est une fille géniale. Valeria Tasca. Et Angelo, et c'est lui qui a écrit un livre qui reste, qu'on trouve encore, qui est dans l'édition de Gallimard, qui est vraiment un des bons livres sur la naissance du fascisme. Hein. Nascita e avvento del fascismo. Et la première édition qu'il a faite avant la guerre était sous un pseudo. Hein. Rossi, le nom. Le nom aussi disait ce qu'il pensait, hein, voilà, même s'il n'était plus communiste, il restait Rosso. Hein. Et puis il a republié après sous son nom, donc on trouve naissance et origine du fascisme. Je ne sais plus comment la traduction en français.
Des années 20, hein, déjà, qui est très, très tôt. Hein.
Oui, il écrit à la fin des années 20. Voilà, Angelo Tasca. Alors, eux, voilà, des gens, des jeunes gens qui travaillent beaucoup, tous les autres vont réussir leurs examens. Ouais. Il n'y a que lui qui passe pas ça. Là, ouais. Tous les autres l'ont. Ils sont socialistes, hein, cette idée, voilà, cette idée-là, l'idée que je viens d'exprimer avec la phrase de Marx, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà. Donc, un socialisme vague, hein, pas marxiste au sens on va le voir, que l'arrivée à le marxisme et une lecture spécifique de Marx, hein, va venir sur une période, hein, qui en gros va commencer avec la fin de la guerre, hein, avec la fin de la guerre et l'intérêt pour la victoire des ce qu'on comprend comme la victoire des assemblées, des soviets, du peuple, etc., en Russie, hein, la révolution d'octobre, celle de février, celle d'octobre. Proche des idées socialistes, mais qu'est-ce qu'ils lisent? Ils lisent les philosophes de leur époque. Hein, ils lisent les philosophes de leur époque. Donc, Croce, Gentile, les Hegeliens italiens, la lecture d'Hegel par la philosophie, la grande philosophie idéaliste italienne, qui a disparu des radars maintenant, il n'y a vraiment plus personne qui travaille sur Croce, mais qui est vraiment Croce et un autre qui lui va être un des idéologues du fascisme, et un ministre des gouvernements Mussolini, et celui qui va écrire l'entrée fascisme dans la grande encyclopédie italienne des années 30, qui est Gentile. Hein, qui est Gentile. Voilà. Ils lisent ça, ils lisent les revues qui vraiment voilà, amène ces idées-là. Donc ils lisent la critique de Crouch, ils lisent la Vauche. Voilà. Alors, il est, à partir de 1913, donc, il commence une activité politique dans les groupes socialistes turinois qui ont cette particularité que s'y retrouvent des ouvriers et des étudiants. C'est-à-dire que Turin, c'est... évidemment, Turin, c'est la Fiat, enfin, et c'est la pointe avancée de la classe ouvrière italienne, au sens où voilà, il y a une classe ouvrière éduquée, qui lit, etc., qui lit des journaux, qui lit des livres, hein, toute une série de réflexions après de Gramsci sur cette question-là. Hein. Et donc il commence là, et il est dans... en gros, ce qu'on va appeler à ce moment-là l'aile radicale l'aile de gauche du Parti socialiste italien, dans lequel coexistent des âmes diverses. Hein. L'âme principale, qui est celle en partie, enfin l'âme principale en tout cas, du point de vue de l'expression et de la représentation du groupe des députés, hein, du groupe parlementaire du parti, c'est une âme réformiste. Très lié à l'idée que voilà, on va obtenir des choses pas à pas. C'est l'aile qui a fait des choses énormes, hein, en particulier avec la mise en place de syndicats assez forts, de syndicats d'ouvriers agricoles très forts, de coopératives. Il y a tout ce mouvement qui n'est pas spécifique à l'Italie. Hein, il y a des mouvements comme ça en France, en Allemagne, etc. Mais vraiment donc, ce courant réformiste, et puis il y a un courant, disons, radical, révolutionnaire, prêt à aller manifester, etc. Donc il y a toute une série de choses qui se passent, et avec des choses qui peuvent apparaître comme étonnantes, mais comme vous êtes du début du 21e siècle, vous verrez que c'est pas si étonnant que ça, en fait. Des choses qui se passe, qui sont par exemple que le principal porte-parole de ce courant, disons, radical ou de gauche du Parti socialiste italien, qui est le directeur du quotidien du parti, qui s'appelle En Avant, l'Avanti, hein, Avanti, qui est l'organe officiel du Parti socialiste italien, l'organe national. Après, il y a des journaux locaux, il y a des pages locales dans l'Avanti, mais l'Avanti, c'est le journal. Et donc le directeur, quelqu'un qui s'appelle, comme vous savez sans doute, Benito Mussolini, et qui, au moment où la guerre éclate, en 1914, en Italie, il y a un débat sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, etc. Voilà. Est-ce qu'on applique nos traités d'alliance qui prévoyaient, si on les appliquait, ça veut dire combattre du côté de l'Autriche et de l'Allemagne. Parce que c'est ça la situation. Donc il y a toute une série de gens qui disent non, on ne veut pas aller avec l'Autriche et l'Allemagne, c'est nos ennemis héréditaires. Enfin, en tout cas l'Autriche, hein, pas l'Allemagne, mais l'Autriche. On ne veut pas aller avec eux. Il y a des gens qui disent il faut aller avec les Français parce que il faut qu'on termine le processus d'unité contre les Autrichiens, qu'on n'a pas mené jusqu'à son terme, et donc on a besoin de récupérer les terres qui ne sont pas encore italiennes, alors qu'elles devraient l'être, etc. Et donc il y a tout un mouvement pour l'intervention, un mouvement interventionniste, on dit en italien interventiste. Mais le Parti socialiste italien donne comme mot d'ordre la neutralité absolue. Et il y a une espèce de coup de tonnerre dans le monde socialiste quand, en octobre 1914, comme dans son journal, ce qui est encore son journal, L'Avanti, qui est aussi le journal du Parti socialiste, Benito Mussolini écrit un article qui s'appelle dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante, hein, de la neutralité absolue à la neutralité active et agissante. Alors, en gros, il dit, c'est bon, quoi. Il faut qu'on soit là, il faut que la classe ouvrière soit là. Et il faut qu'on soit là du bon côté, le bon côté, c'est contre les Autrichiens. Contre les Autrichiens. C'est le 18 octobre, cet article de Mussolini. Le 20 octobre, il démissionne, Mussolini, il démissionne de la direction de la Vente. Le 24, hein, un mois plus tard, le Parti Socialiste, bon, de toute façon, il serait parti tout seul, mais il est exclu du Parti Socialiste, et il va fonder un journal qui va jouer un rôle important dans la campagne pour l'entrée en guerre de l'Italie. Vous savez que l'Italie va entrer en guerre, mais en mai 1915, hein, en mai 1915, et il fonde le Popolo d'Italia, avec des fonds qui viennent du gouvernement français, qui a compris que ça allait être un élément important pour amener l'Italie comme allié dans la guerre contre l'Autriche et l'Allemagne. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est la réaction des amis, les futurs de l'Ordine Noir. Angelo Tasca attaque de façon immédiate, attaque Mussolini en disant « Mais c'est incroyable qu'un socialiste puisse dire une chose pareille. Nous, on est contre la guerre, etc. » Et il l'attaque dans les colonnes du journal socialiste de Turin, Grillo del Popolo, hein, qui est un hebdomadaire. Et la semaine d'après, son ami et futur camarade de l'Ordine Noir, Antonio, écrit un article qui reprend le titre de l'article de Mussolini. Donc c'est la deuxième partie du titre de Mussolini. Vous vous souvenez que le titre de l'article de Mussolini décrivait le parcours dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante, et Gramsci appelle son article neutralité active et agissante. Neutralité active et operante. Grido del Popolo, 31 octobre 1914, où en gros il dit que la comoda posizione della neutralità assoluta non ci faccia dimenticare la gravità del momento e non faccia che noi ci abbandoniamo neppure per un istante ad una troppa ingenua contemplazione e rinunzia buddistica dei nostri diritti, no? Donc que cette commode position de la neutralité absolue ne nous fasse pas oublier la gravité du moment et ne fasse pas que nous nous abandonnions, ne fût-ce que pour un instant, à une contemplation trop ingénue et à une renonciation bouddhiste de nos droits. Donc la classe ouvrière doit être présente. Voilà, alors, voilà, c'est juste pour dire. Pour dire deux choses, une qui est simple à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on est quelqu'un d'important, un grand penseur, etc., qu'on n'a pas le droit de dire des conneries à un moment donné de sa vie, et on en dit tous. Donc, n'appliquons pas une théorie stalinienne bien connue, stalinienne et maoïste bien connue, qui est la lecture des vieux traîtres. Hein. Les vieux traîtres, c'est. Si tu fais ça à un moment, c'est que tu l'as déjà fait avant. Hein. Si vous regardez, c'est Kamenev, hein. T'étais pas sur la ligne des thèses d'avril, et puis t'es juif, en autre, il me semble bien, tu vois. Ouais. Ça, c'est la théorie des vieux traîtres. Hein. Voilà. Donc, le monde, la tradition orthodoxe, des partis communistes internationaux a appliqué assez radicalement cette ligne des vieux traits. Donc là, on ne l'applique pas. Il a dit ça parce que... Mais ça veut dire quelque chose. Deuxième chose que ça veut dire, ça veut dire que cette jeunesse étudiante radicale, socialiste, radicale, qui s'intéresse à transformer le monde, etc., se dit que peut-être... Hein, donc il y avait un vrai... une partie de la vérité qui était dite, une partie de quelque chose qui était vraiment ressenti, y compris dans les socialistes, par Mussolini. C'est pas juste, parce que il y a l'argent du gouvernement français qui l'aide à faire Il Popolo d'Italia. Mais c'est pas juste ça. Alors après, voilà, après, évidemment, Gramsci va pas au Popolo d'Italia, Gramsci ne passe pas, etc. Il reste, il comprend qu'il a dit une connerie, il dit plus rien, il écrit plus rien pendant un an à peu près. Un an, ouais, pendant un an, il écrit pratiquement, ouais. Jusqu'à l'automne 1915, il écrit plus rien, etc. Et voilà. Et le fait que ça soit une vraie tentation, enfin un vrai sentiment que peut-être l'intervention dans la guerre est utile pour la classe ouvrière et pour le peuple italien, et un truc qu'on retrouve par exemple chez Palmiro Togliatti, qui lui est réformé, parce qu'il est miro, il voit rien. Ouais. Il tire, il va tirer sur ses copains, donc on lui dit non, non, toi t'es réformé, c'est bon, reste où t'es. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage volontairement dans les services de santé. Vous voyez, c'est pas. Palmiro Togliatti, après, c'est Palmiro Togliatti, hein, c'est le dirigeant pendant les 20 années qui suivent la guerre, hein, c'est le dirigeant du Parti communiste italien. Et pendant les 20 ans d'avant, c'est un des dirigeants de l'Internationale communiste. Voilà. Donc, la réalité est parfois plus complexe qu'on veut bien. Que ce dont on veut bien en dire. Voilà. Alors, il va comprendre qu'il a dit une sotte, enfin, pas aller jusqu'au bout, parce qu'il voit bien jusqu'à bas le bout. Le bout, c'est l'interventionnisme, l'abandon du socialisme, etc. Et c'est pas ça qu'il veut. Donc, il va pas avec Mussolini. Hein. Il va pas avec Mussolini. Et donc, il recommence à partir de l'automne 1915 d'écrire. Pour la presse socialiste, alors il tient la rubrique turinoise de l'Avanti, donc du journal national. Cette rubrique s'appelle Sotto la Mole. Hein. Et c'est évidemment, c'est une référence à. Si vous êtes les Turinois, évidemment, je vous apprends rien, mais si vous êtes déjà allé à Turin, il y a ce truc, espèce de tour bizarre comme ça, qui est maintenant le musée du cinéma. Qu'on appelle la Mole Antonelliana, du nom de Antonelli, l'architecte, qui avait été sans doute faite pour faire comment on appelle ça, une église des juifs, comment ça s'appelle,
une synagogue.
Il y a un trou, c'est large, hein, mais aussi la mole, ça veut dire le poids. Donc c'est sous le poids du, c'est aussi l'idée de sous le poids du capitalisme. Hein. Il y a ce double truc. C'est à Turin, donc il y a la mole et en haut on la voit partout. Et puis c'est aussi la classe ouvrière qui est sous le poids du capitalisme, hein. Sous le talon de fer du capitalisme. Vous avez déjà lu Jack London sous le talon de fer? Ouais. Personne l'a lu? Non. Il talon de fer, on en avait mai letto. Appena arrivate à casa, vous devez être. Bon, enfin, bon, bref. Donc, il fait ça. Et puis, il Grillo del Popolo, hein, donc l'hebdomadaire socialiste turinois. Donc, il écrit toute une série de trucs. Beaucoup de choses sur le théâtre. Hein, beaucoup de choses sur le théâtre. C'est, en gros, il fait la rubrique théâtrale. Hein, et, voilà, toutes les semaines, il raconte. Et en particulier, c'est un des tout premiers critique de théâtre italien qui comprend ce qui se passe avec Pirandello, hein, qui est un des grands écrivains de théâtre italien de l'époque. Donc voilà, vous trouvez ça, mais en italien. En italien, vous trouvez beaucoup de choses sur. En particulier les cronache teatrali, le trovate negli appendici del volume Letteratura e vita nazionale dell'edizione Togliatti Platone, che si trova nel sito Liber, che conoscete? No, non ci siete mai andati. Allora andate a vedere, perché insomma c'è un sacco di roba che si può scaricare. Bon, voilà, donc si, enfin, en français il n'y a pas. En français, on ne les trouve pas. Voilà. Mais, alors, un moment important qui est en 1917, donc en gros, il vide sa plume, il a arrêté de faire les études, il a abandonné l'idée de la thèse sur la langue piémontaise. En 1917, la Fédération piémontaise des jeunesses socialistes lui demande de rédiger un numéro zéro, un numéro unique, hein, mais ben, déjà quelque chose s'ébauche, hein, de ce que sera l'Ordine Nuove deux ans après. Et donc ce numéro, qui a un très beau nom, s'appelle la Città Futura, hein, la cité future, la cité du futur. Journal de culture ouvrière. Culture. Hein, donc il y a un point important qui va revenir, hein, qui va être le sous-titre de l'Ordine Nuove. Hein. Cultura. Donc, et là, donc il fait ce numéro tout seul. Il le conçoit. C'est pas lui qui écrit tous les articles, mais parce qu'il y a des articles d'autres personnes, etc., qu'il présente, etc. Et donc, il publie La Città Futura, ce numéro unique, le 11 février 1917. Et donc, un mois avant le début de ce qui va se passer en Russie, à Petrograd. Hein. Il conçoit ça comme une invitation à agir et à penser. Alors, il va expliquer toute une série de choses, y compris, il va rester avec cette idée de ce que signifiait déjà cette Città Futura. Hein. Alors, il va y revenir, parce que c'est dans ce passage qu'on comprend très bien ce qu'il avait en tête. Donc, voilà ce qu'il écrit. Alors, juste une parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas le français et qui voudraient lire La Città Futura. André Tozel a fait sortir peu de temps avant sa mort une édition française de La Città Futura. Je ne me souviens plus l'éditeur, tu te souviens ? Non, enfin bon, peu importe, mais ça se trouve facilement. Gramsci, la Città Futura, la cité future, par André Tozel. Enfin, André Tozel a fait une édition, mais vraiment très récente. Alors voilà ce qu'il écrit donc dans un
des cahiers. Édition critique. Ouais. Édition critique.
Ouais. Et c'est quel éditeur, tu vois ?
Édition critique.
Ah, l'éditeur s'appelle.
L'éditeur s'appelle Édition critique au pluriel.
Bon, d'accord. On ne sait pas qui c'est. Mais... Non. Ouais. Enfin, en tout cas, ça se trouve, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'il écrit à propos de cette expérience-là. Donc, dans le cahier 10, qui est consacré essentiellement à revisiter la philosophie de Croce, hein, voilà ce qu'il écrit. En février 1917, dans une brève note qui précédait la reproduction du texte de Croce, Religione et de Serenità, qui venait de paraître dans la critique, la revue de Croce. Et donc ça, c'est dans la brève note, elle est dans la Città Futura. J'ai écrit que, de même que l'hégélianisme avait été la prémisse de la philosophie de la praxis au XIXe siècle, aux origines de la civilisation contemporaine, de même, la philosophie crocienne pouvait être de nos jours pour notre génération la prémisse d'une reprise de la philosophie de la praxis, hein, c'est-à-dire du matérialisme historique, c'est-à-dire du marxisme. La question n'était qu'ébauchée sous une forme certainement primitive et encore plus sûrement inadéquate, car à cette époque, le concept de l'unité de la théorie et de la pratique, de la philosophie et de la politique n'était pas encore clair pour moi, et moi, j'étais tendanciellement plutôt crocien. Mais maintenant, il me semble qu'il faille reprendre cette thèse et la présenter sous une forme plus élaborée, critiquement. Alors, vous voyez bien que la remarque, hein, quand il dit à l'époque, in quel tempo, il concetto di unità di teoria, di pratica, di filosofia politica non era chiaro in me, hein, à l'époque, donc ce concept d'unité de théorie et de pratique de philosophie, d'unité de la philosophie et de la politique, n'était pas clair pour moi. Que c'est à ça, c'est un des points d'arrivée du travail des cahiers. Et qu'évidemment, ce travail, ce point d'arrivée du travail, il passe par la relecture de Marx, et en particulier du jeune Marx, et en particulier des thèses sur Feuerbach, hein, et en particulier de la romancière. Il dit pas que ça, qu'il y a fin derrière. Ah oui, il a dit que en fait, il a lu la 11e thèse sur Feuerbach. Non, un peu plus. Mais, évidemment, mais l'endroit où c'est dit le plus clairement, c'est la 11e thèse sur Feuerbach, qui dit l'unité de la théorie et de la pratique et l'unité de la philosophie et de la politique, puisqu'il dit, jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Et là, ça dit, en tirant toutes les... Là, il y a tout le travail théorique pour en tirer toutes les conséquences. Mais ça dit ça. Ça dit unité de la théorie et de la pratique, et ça dit unité de la philosophie et de la politique. Hein, qui est un des points d'arrivée importants. Voilà. La conclusion de ce passage, hein, je la lis parce que c'est le... En gros... Le programme de travail des cahiers, essentiellement du cahier 10, mais enfin toute sa réflexion sur la philosophie, qui commence avant, les notes sur la philosophie, continue dans le cahier 10 sur Crouch et continue dans le cahier 11 sur l'autre pendant de la critique qui doit opérer, qui est la critique du matérialisme simpliste, du matérialisme déterminisme. Hein, et en particulier donc du livre qui sert en gros de manuel au communisme international, qui est le manuel sur la théorie du matérialisme historique, en sous-titre « Manuel de sociologie marxiste » de Nikolaï Boukharine. Voilà. Voilà. Qui, à ce moment-là, est un des principaux alliés de Staline. Évidemment, on va se faire dégommer, lui aussi, mais bon... C'est l'histoire tragique du communisme du premier tiers, de la première moitié du XXe siècle. Et donc voilà ce qu'il dit à la fin, le programme de travail. Occorre rifare per la concezione filosofica del Croce la stessa riduzione che i primi teorici della filosofia della praxis hanno fatto per la concezione hegeliana. Hein? Autrement, il faut opérer pour la conception philosophique de Croce la même réduction que celle que les premiers théoriciens de la philosophie de la praxis, Marx et Engels, hein, ont opéré pour la conception hegelienne. Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, lecteur, donc il n'est pas encore au stade de lecteur de Marx ayant tiré pour sa part, et avec ses conceptions, ce qu'il estime être le cœur de la réflexion marxiste sur l'unité de la théorie de la pratique, l'unité de la philosophie et de la politique, hein, c'est avant d'être un lecteur de Marx, il est encore un lecteur de Croce, hein, mais il dit que dès ce moment-là, dès 1917, en février 1917, quand il publie La Città Futura, il a en germe l'hypothèse que ce travail doit être fait, que ce travail de compréhension doit être fait, et que il faut faire, hein, et il va avoir cette idée qu'il va falloir faire, voilà, à la fois la critique, mais en reprenant ce qu'il faut reprendre, hein, avec cette idée de la, voilà, vraiment il a une application de l'idée de la dialectique hegelienne puis marxiste totalement radicale. Hein, voilà, trouver la façon d'intégrer tout ce qu'il y a de vivant dans la philosophie idéaliste néo-hegelienne de Crouch, hein, et de mener à bien ce travail-là, tout en menant à bien l'autre travail qui est libérer le marxisme officiel, celui qu'il a en face de lui, celui qu'il a avec les dirigeants du Parti socialiste italien, avec la revue théorique du Parti socialiste italien, la Critica Sociale, et les grands penseurs du Parti, les grands penseurs réformistes du Parti socialiste italien, comme Turati, Treves, etc., faire contre eux, et puis par la suite contre la façon dont ça se poursuit dans une vision déterministe, mécaniste, à l'intérieur même du mouvement communiste, avec le texte de Boukharine, mais derrière Boukharine, il y a tout le reste. Hein. Voilà. C'est ça le travail philosophique qu'il va effectuer en prison. Hein. Ce double travail philosophique qu'il va effectuer en prison. Alors, rapidement là-dessus, à cette époque-là, on n'en est pas encore là. Hein, il insiste sur le rôle de la volonté humaine, etc. Parce que qu'est-ce qu'il va chercher chez Crouch, hein, qu'est-ce qui l'intéresse chez Crouch, hein. Alors la première chose qui l'intéresse, c'est le fait que dans la conception de l'histoire de Crouch, il n'y a plus rien de transcendant. Il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de transcendance religieuse, etc. Hein, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, tout se déroule là, dans la réalité des sociétés humaines. Voilà. Hein, alors, pour Crouch, c'est entre les esprits humains, mais c'est dans la réalité humaine. C'est pas dans quelque chose qui sera ailleurs, métaphysique ou dans une foi religieuse. Donc ça, c'est la première chose qui l'intéresse chez Crouch, hein, et qui le marque profondément. Hein. Et puis, le fait que Crouch, dans sa lutte contre le positivisme, qui est quand même un des grands courants philosophiques de la fin du XIXe siècle, hein, bien que Crouch, par cette lutte antipositiviste, centre sa conception d'histoire sur l'idée que ce sont les êtres humains qui font l'histoire. Hein, les êtres humains unis par leur volonté en un sujet collectif qui font l'histoire. Et pas donc des forces matérielles et impersonnelles. Et ça va l'amener à c'est le deuxième aspect, hein, qui amène tout de suite à il faut remettre Crouch sur ses pieds, mais en même temps il faut bien savoir que ce n'est pas les forces matérielles et impersonnelles qui déterminent le cours des choses, hein, mais que ce sont les hommes, que c'est les êtres humains unis par une volonté commune, hein, et donc formant un sujet collectif qui peut transformer le monde. Ouais. Ouais. Alors, vous voyez bien que ce qui est en jeu là, c'est l'interprétation de qu'est-ce qui se passe. Hein, qu'est-ce qui se passe quand il y a une contradiction entre les forces productives et les rapports de production, hein. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est un des textes de Marx qu'il faudra, pas 50 millions à lire pour comprendre Gramsci, mais celui-là, il faut le lire, c'est la préface de 1859 de la Critique de l'économie politique, hein, de Marx. J'ai un petit texte, alors, voilà, mais qui a été commenté des dizaines de fois, qu'on trouve absolument très facilement partout, et dans lequel vous savez qu'il y a, enfin vous savez pas, mais c'est dedans un passage qui dit ça, qui dit à un moment donné les rapports de production entrent en contradiction avec le développement des forces productives, et à ce moment-là commence une période de révolution sociale. Bon. Alors la vulgate de l'Internationale socialiste, hein, de la deuxième Internationale, celle qui a pris la Suisse de l'Association internationale des travailleurs, et qui est dominée par le Parti social-démocrate allemand, hein, le comprend comme, c'est pas compliqué, le mouvement inexorable des forces, hein, et des réalités, des rapports, etc., donc indépendamment de la volonté des hommes, à un moment donné, va se dérouler cette transformation qui ne peut qu'advenir parce qu'elle est dans le sens de l'histoire. Si on veut que les forces productives continuent à produire et qu'elles ne soient pas entravées par la propriété privée par la propriété privée, il faut il faut l'appropriation collective des moyens de production, et ça va se passer comme ça. Voilà. Il faudra peut-être une révolution, mais c'est un truc, en général, ce qui est pensé, c'est bon, à un moment donné, les mecs diront, bon, c'est bon, pouce, on a compris, on s'en va, il a les clés des usines et tout, et puis, voilà, c'est bon, de vous donner un petit boulot dans un coin, on sait faire ci et ça, etc. Bon, pour les plus, voilà, pour quelqu'un comme Sorel, ça va être... Tout le courant syndicaliste, c'est le mythe de la grève générale, et là, alors là, c'est pareil, la grève
générale,
et là, les socialistes révolutionnaires, oui. Les syndicalistes révolutionnaires, mais s'il y a des syndicalistes pas révolutionnaires, et donc Georges Sorel, vous connaissez sûrement au moins ses réflexions, au moins le nom de ses réflexions sur la violence, mais il a toute cette idée là, comme ça, de la création du mythe de la grève générale. Donc c'est simple, on s'arrête tous. De temps en temps, là, grève générale, grève illimitée, il n'y en a jamais, mais bon, si elle arrivait, grève générale, ils sont morts. Donc, ils s'en vont. Tu vois, devant l'évidence, de dire, sans vous, on ne peut pas. Bon, tenez, là, les clés. Allez, donne les clés, ils s'en vont. L'oisif ira loger ailleurs, dit l'international. Si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.